Troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1968. En voici le programme. Bonnie and Clyde, version Gainsbourg et Bardot. Le printemps de Prague, la France qui essaie sa première bombe H. Et enfin l'arrivée à la télé des Shaddock et de Skippy le kangourou.
1968, on de la raconte sur Europe 1.
L'année 1968 est une grande année pour Serge Gainsbourg. Il a 40 ans et il sort son 7e album, inspiré par une nouvelle muse, Brigitte Bardot.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
zip, shabam, pow, blow, whiz.
N'aie pas peur bébé, agrippe-toi. Je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi.
Slack, shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz. Shabam, pow, blop, whiz.
Cet album est aussi marqué par la chanson Bonnie and Clyde, inspirée d'un film qui vient à peine de sortir.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Comment il a vécu ? Comment il est mort ? Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore ? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde, je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai vu. Parce qu'il est beau sur tous les plans, esthétique. Les acteurs sont parfaits, la mise en scène extraordinaire, et l'histoire est un conte cruel, comme un conte de Perrault.
Mais est-ce qu'on ne trouvait pas que cette histoire, c'est aussi l'apologie de la violence ?
Et Shakespeare aussi, alors. Hein ? Tout se résout dans le sang avec Shakespeare. Hein ? Shakespeare n'incite pas aux amours violentes, pas plus que Bonnie and Clyde n'incite au meurtre.
Disons les choses, en 1968, quand sort cet album, Bardot et Gainsbourg vivent une romance, bien que la comédienne soit officiellement en couple avec l'homme d'affaires allemand Günter Sachs. Et quand cette parenthèse amoureuse se referme, Gainsbourg en fait une chanson, initiale Bébé.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels.
Initial Bébé est d'une telle beauté que le titre perce même outre-Atlantique. Il atteint la 12e place au hit parade américain. Gainsbourg est désormais célibataire et il a du temps. Et ça tombe bien, car Jean Gabin vient de lui demander de composer la musique de son prochain film, Le Pacha. Gainsbourg signe alors Requiem pour un con.
Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le requiem pour un mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de Célia. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non ? Semblable à toi-même, pauvre con.
Mais finalement, ni le film, ni la chanson ne plaisent à la censure. Le Pacha est interdit au moins de 18 ans, car il écornerait trop l'image de la police. Et le titre Requiem pour un con est jugé obscène et scandaleux. Il est donc censuré à la radio. Gainsbourg est déçu, mais Gabin le console en lui glissant. T'inquiète pas trop, Serge. Messieurs les censeurs se sont sans doute sentis visés par ta chanson. Et puis c'est tout. Et juste après, il fait une nouvelle rencontre. Ça se passe au printemps 68. Gainsbourg tourne dans un film de Pierre Grimblat, Slogan. Une histoire d'amour dans laquelle il tient le premier rôle. Et il partage l'affiche avec une jeune Anglaise absolument inconnue qui ne parle même pas un mot de français. Jane Perkins, 23 ans. Pierre Grimblat raconte la naissance de ce duo de stars.
Un journaliste français écrit que Pierre Grimblat est tellement astucieux qu'il a choisi pour tourner son nouveau long-métrage le couple le plus à la mode du moment.
Erreur, 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 le couple le plus à la mode a fait connaissance en tournant Slogan. Serge Gainsbourg était engagé pour tourner et puis j'ai cherché la jeune fille et en Angleterre j'ai trouvé une débutante qui s'appelait Jane Birkin. Je les ai présentées l'un à l'autre au cours des essais et puis... Et puis, point de suspension. Voilà. Non. Bien sûr, je suis très heureux que ce couple soit devenu le couple de l'année et que, de ce fait, Slogan soit devenu quelque chose dont on parle beaucoup, un film dont on parle beaucoup, mais au départ, ça n'était pas du tout prévu, à tel point que Jane Birkin, pendant le tournage, se plaignait de ce que Serge Gainsbourg ne lui adressait pas la parole en dehors des scènes qu'il tournait. Car Serge Gainsbourg est archi-timide. Et j'ai dû, moi, dire à Serge, vraiment, c'est une débutante, tu ne l'aides pas, elle est seule à Paris, on l'a fait venir toute seule ici, tu ne la sors même pas le soir, et moi, j'ai à travailler sur le film, je vais m'occuper d'elle, fais quelque chose. Et il a commencé à la sortir, comme on dit, le soir, après le tournage.
L'idylle entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin ne reste pas longtemps secrète. Mais pour l'instant, Serge Gainsbourg lui-même ne veut pas en parler. En revanche, il veut bien parler d'amour, tout court.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez infidèle, mais de la part de vos partenaires, est-ce que vous accordez de l'importance à la fidélité en amour ?
Ah oui, infidélité à sens unique.
Infidélité à sens unique. Et comment sanctionnez-vous l'infidélité à votre rencontre ?
Ben, la rupture.
Immédiate.
Non, en fait, si vous êtes vraiment amoureux, vous êtes indisponible. Absolument indisponible.
D'accord.
Donc, vous êtes fidèle.
Et lorsque vous vous accordez votre confiance et qu'elle est, disons, accidentellement trahie ?
Une confiance n'est jamais accidentellement trahie. On ne peut pas... Je n'accorde jamais ma confiance.
Vous l'accordez jamais ?
Non, pas possible.
Vous vivez dans une espèce
il y a trop
de...
Oui, il y a trop de promiscuité, trop de beaux garçons.
Mais en vérité, au cours de cette interview, Gainsbourg finit par lâcher que ce qu'il aime, lui, ce sont les histoires tumultueuses.
L'amour doit être en dents de scie, c'est-à-dire vous devez, si vous êtes sur une ligne droite, vous ennuyez, que ce soit l'idéal ou la tragédie. En dents de scie, c'est difficile, mais ça peut se faire.
Sans monotonie, donc sans ennui.
Des drames et des moments d'accalmie.
À votre avis, c'est justement de ne pas suivre la ligne droite qui est le moyen de lutter contre la lassitude de l'habitude. Hein?
Oui, exact.
Et pourtant, vous avez écrit, donc vous avez affirmé que l'amour physique était sans issue.
Mais ça, c'est une image assez... médical.
Ah bon, c'était uniquement sur le plan extérieur.
C'est ça.
C'est ça, vous ne pensez pas ?
Ah si, quand même, si. Je pense également que uniquement physiquement, c'est sans issue. Oui.
Du coup, puisque physiquement, c'est sans issue, aimerait-il une femme qui ne serait que belle ?
Un objet. Oui. Une femme objet, j'ai eu ça, oui, de temps en temps. Non, c'est pas possible. Et c'est joli, mais c'est agréable, mais c'est pas possible.
Est-ce qu'il est vrai, Serge Gainsbourg, que l'on s'attache beaucoup plus et qu'on se passionne plus longtemps pour une femme laide ?
Qu'est-ce que c'est que la laideur ? Si la femme a des traits difficiles, elle peut être fascinante et belle. Ce qui est inintéressant, c'est une femme jolie. Mais une femme belle peut être très jolie ou très laide.
Par pudeur ou par timidité, Serge Gainsbourg n'évoque pas Jane Birkin dans cet entretien. Pourtant, elle lui inspire un nouvel album dans lequel elle tient un rôle primordial. Sur cet album, il reprend avec Jane une chanson qu'il avait composée pour Brigitte Bardot, « Je t'aime, moi non plus ». C'était Jane Birkin et Serge Gainsbourg à la fin de l'année 1968 qui interprètent « Je t'aime moi non plus », titre propulsé numéro 1 en Angleterre et numéro 3 en France.
1968, on de la traconte sur Europe 1.
À la fin du mois de janvier 1968, la guerre du Vietnam est à son paroxysme. Et alors que le pays s'apprête à fêter le nouvel an vietnamien, les communistes du Viet Cong lancent une grande offensive. Sur place, le grand reporter d'Europe numéro 1, Julien Besançon, est au plus près des combats. Et il chuchote pour ne pas se faire repérer.
C'est un fusil mitrailleur qui est là. 100 mètres à gauche, derrière des fils à eau, derrière des arbres dont les feuilles sont comme des toiles d'araignée. On a reçu des tirs un peu toute la journée. Il semble bien que l'unité Viet Cong soit dans la forêt, environ 1500 mètres devant nous.
La forêt commence à brûler. On ne voit plus à 2 mètres malgré les fusées éclairantes et les balles traçantes. On ne voit plus rien. Et le combat dure comme ça maintenant, depuis plusieurs heures. Il va durer toute la nuit au hasard.
Ah,
Autre point chaud en 1968, la Tchécoslovaquie. En début d'année, un nouveau président est élu, Alexander Dubček. C'est un réformateur. Il instaure la liberté de la presse, la liberté d'expression et la libre circulation. On appelle ça le printemps de Prague. Sauf qu'à Moscou, ça ne plaît pas du tout aux grands frères soviétiques. Alors fin août 68, Léonid Brejnev décide d'envahir la Tchécoslovaquie. Europe numéro 1 envoie sur place l'un de ses reporters, Michel Tatu, qui a beaucoup de mal à entrer dans le pays.
J'ai moi-même essayé de me rendre à la frontière aujourd'hui en Tchécoslovaquie. Tout est calme, sauf qu'il y a une queue assez longue de voitures, soit de curieux, soit de gens qui essayent en vain de passer. Il semble qu'on laisse rentrer en Tchécoslovaquie les citoyens tchécoslovaques et éventuellement quelques étrangers. Les journalistes, en tout cas, ne sont pas admis. Un officier tchécoslovaque m'a dit « Je ne peux pas vous laisser rentrer, je ne peux même pas vous dire pourquoi. » Aucune troupe soviétique n'était en vue à ce poste frontière. Selon les militaires tchécoslovaques avec qui on peut parler, les Russes ne seraient qu'à 80 km sur la route de Brno.
Du coup, Europe numéro 1 envoie un autre reporter, Gilles Schneider, qui lui aussi se retrouve bloqué à Vienne, en Autriche.
Depuis le début de l'après-midi, toutes les villes de Tchécoslovaquie, toutes les grandes villes de Tchécoslovaquie ont été prises. C'est du moins ce que j'ai pu apprendre depuis Vienne. Des lourds tanks russes ont pris position à tous les points stratégiques et contrôlent maintenant toutes les grandes routes, tous les grands axes routiers. Leurs équipages portent le casque et la combinaison de combat. À Prague, la situation a tourné, on peut dire, très souvent au drame aujourd'hui. Il y a eu des fusillades, des jeunes gens par groupes plus ou moins importants manifestent, notamment place Venceslas, sur la place de la vieille ville. Ils portent le drapeau tricolore, le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau tchécoslovaque et chantent l'hymne de leur pays. Ils crient « Vive la liberté, vive Dubček ». Ils portent des pancartes et des banderoles sur lesquelles est écrit « Pourquoi faites-vous cela ?». Cela, évidemment, est adressé aux Russes. Et de telles inscriptions, même, paraît-il, étaient inscrites à la craie sur des chars soviétiques. Et je peux aussi confirmer, d'après les renseignements que j'ai pu avoir à Vienne, ce que disait tout à l'heure ce jeune Français qui nous a appelés à Europe numéro 1, sur certains chars, il y a même, paraît-il, quelques croix gammées dessinées à la craie.
Bloqué à Vienne, Gilles Schneider rencontre des touristes qui viennent de fuir Bratislava à l'arrivée des chars russes.
Il y a des pavés d'arrachés, il y a des tanks un peu dans tous les sens. Tout le long de la route, ce qu'on a vu, c'est des soldats hongrois ou polonais. Mais leur attitude, elle n'est pas hostile, elle est assez calme, à part à un endroit où il y avait des gens slovaques qui criaient, qui leur criaient des insultes au passage. Et il y a, puisque je suivais le camion à ce moment-là, il y a un soldat qui a fait voir son fusil.
Il y a eu des étudiants qui lançaient des pierres contre un tank russe.
Oui, nous avons vu ces courageux qui ont fait ça, contre le tank russe. Il a fait tourner sa tourelle. Pour effrayer les gens.
Nous avons vu des gens lancer des pierres contre les tanks et après on a entendu les coups de fusil. Et après, on nous a dit que les Russes ont fusillé 7 étudiants sur l'escalier de l'université.
Finalement, Gilles Schneider parvient à tromper les militaires russes et il est l'un des rares journalistes occidentaux à entrer en Tchécoslovaquie.
Les manifestations commencent. Ils sifflent les chars russes qui prennent position sur la place Venceslas. Je vais cacher mon téléphone. À 50 mètres de moi, j'ai des soldats russes qui apparaissent, une mitraillette au poing.
Et Gilles Schneider, qui est maintenant sur place, voit de ses yeux les Russes réprimer la manifestation à coups de pistolet mitrailleur.
Tout le monde court! Qu'est-ce qui s'est passé exactement, madame?
Oui, vous voyez, on a donné par la radio municipale un programme en faveur des occupants et des Russes. C'est pourquoi les gens ont sifflé, les autos ont, comment ça se dit, ont fait
le klaxon,
oui.
C'est pour ça qu'il y a eu la manifestation.
Il n'y a pas de manifestation à mon avis, mais c'est pour ça que les Russes ont tiré contre les gens.
Ça y est, les émissions recommencent. Et aussitôt les sifflets reprennent, tandis que les soldats soviétiques prennent position. Je suis obligé de cacher mon magnétophone sous un imperméable, c'est peut-être pour ça que le son n'est pas excellent. Je ne peux pas faire autrement.
En quelques jours, les Russes prennent le contrôle du pays. Le président tchécoslovaque Alexander Dubček appelle son peuple au calme.
Dans les rues de Prague, l'ambiance ce matin est lourde. Svoboda, Dubček, Tchernyk, Smirkovski ont lancé à midi un appel au calme. L'ensemble de la population semble choquée et certains disent « nous en avons pris pour 10 ans ». Mais comme Alexandre Dubček a demandé à son peuple d'être raisonnable, de vivre normalement sans s'occuper de l'occupation, donc de cesser apparemment toute forme de résistance qui pourrait donner aux troupes étrangères un prétexte pour rester plus longtemps, comme un seul homme, les Tchécoslovaques l'ont écouté. Ainsi ce matin, toutes les affiches placardées sur les murs ont été grattées par les Pragois. Certaines de ces affiches étaient assez étonnantes. Je me souviens de l'une d'elles représentant un char passant sur une fleur. Le char passait, la fleur se redressait et il y avait écrit en forme de pétale « Tchécoslovaquie ». Une autre représentait un tank se dirigeant sur Prague avec dans un coin un portrait de Lénine pleurant. D'autres, assez grinçantes, mettaient en boîte les soldats soviétiques. Il y avait écrit « Pour vous » et en dessous une table de multiplication. Ces affiches donc ont disparu. Place Venceslas, les commerçants, les écoles de leur vitrine, et les étudiants font une grande toilette à la statue de Saint Venceslas qui était jusqu'à ce jour couvert de slogans.
Gilles Schneider, le journaliste d'Europe numéro 1, restera finalement à Prague plusieurs mois jusqu'en janvier 1969 quand l'étudiant Jan Palach se suicidera pour protester contre l'invasion russe.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1968.
C'est Sink d'Aretha Franklin en 1968.
1968, on de la traconte sur Europe 1.
En août 1968, après des années de recherche, la France se prépare à faire exploser sa première bombe nucléaire, la bombe H. Sur Europe numéro 1, le scientifique Albert Ducros décrypte l'événement.
Techniquement, l'événement est important car faire exploser une bombe H, ce n'est pas simple. Certes, le principe est bien connu. Une bombe à l'uranium jouant le rôle d'allumette doit créer des millions de degrés pour déclencher des réactions thermonucléaires dans une substance active qui comporte trois éléments légers, lithium, deutérium, tritium. Il ne suffit pas toutefois d'avoir cette allumette et cette substance. Compte tenu de la complexité des réactions et de leur rapidité, la partie se joue sur quelques millionièmes de seconde, il convient de bien doser les différents éléments actifs. Là est la recette de la bombache.
500 personnes travaillent sur cet essai nucléaire depuis 2 ans. Car évidemment, personne n'a donné la recette à la France.
Les Français ont dû effectuer leurs propres recherches et cela, semble-t-il, avec des fortunes diverses. Voici un an à pareille époque, on était nettement pessimiste. Mais il y a quelques mois, la situation avait changé. Et 3 bombaches avaient pu être préparées, relevant de 3 configurations différentes, apparemment toutes satisfaisantes, le problème n'étant pas de les tester successivement, mais de procéder à des comparaisons entre l'expérience et la théorie afin de juger de la validité de cette dernière. Et des raisons matérielles interdisaient d'ailleurs l'expérimentation de 3 bombaches à fangatophage. Je fais allusion aux dégâts de l'explosion. Selon les spécialistes, ces dégâts pourraient se traduire par la destruction pure et simple du champ de tir après 2 expériences seulement.
Le 24 août 1968, sur l'atoll de Mururoa, en Polynésie française, explose la première bombe H française.
La bombe H, dont l'explosion a été télécommandée depuis le croiseur de Grasse, semble avoir, comme prévu, provoqué une large destruction du champ de tir. Dans les minutes qui ont suivi l'explosion, des avions militaires Vautour ont commencé à effectuer des prélèvements dans l'atmosphère, tandis que le phénomène était observé depuis l'espace par des satellites américains, les Vela Hotel, et par le satellite soviétique Cosmos 233.
Et c'est comme ça que la France devient la 5e puissance nucléaire du monde. Ces essais, évidemment, sont très surveillés par les Américains et par les Soviétiques. Mais pour l'instant, Paris le répète, ça n'est pas une arme.
Il s'agissait de vérifier qu'avec une recette et avec des matériaux de fabrication française, les techniciens avaient résolu le problème des explosions thermonucléaires. Fort de cette réussite, les mêmes techniciens pourraient certes, si la décision était prise, passer rapidement à la fabrication de bombes opérationnelles. Autrement dit, la bombage française a dans l'immédiat une importance psychologique. Elle ne sera intégrée à l'armement que dans un avenir assez lointain. Ainsi, l'objectif français va être, au cours des prochaines années, de fabriquer non pas des armes thermonucléaires de série, mais des prototypes de plus en plus perfectionnés et de plus en plus puissants, un assez long chemin restant à parcourir, il faut le souligner.
Cet essai nucléaire n'est qu'une première étape, mais essentielle pour le ministre des Armées, Pierre Messmer, car, dit-il, elle assure la liberté des Français.
L'essai thermonucléaire qui a été réussi samedi soir en Polynésie nous donne, du point de vue militaire, la certitude de disposer, dans un délai raisonnable de quelques années, d'armes thermonucléaires, c'est-à-dire des armes les plus puissantes et les plus redoutables qui existent. Du point de vue politique, c'est pour nous la certitude de maintenir dans la paix l'indépendance nationale et par conséquent la liberté des citoyens. Je sais bien que beaucoup d'expériences et beaucoup d'exemples montrent en ce moment même que l'existence des armes nucléaires n'est pas une garantie de paix. Mais aussi, depuis 23 ans, ce qui a été démontré, c'est qu'un pays qui dispose d'armes nucléaires n'est pas attaqué.
Ces propos, évidemment, ravivent le traumatisme d'Hiroshima, d'autant que la bombe française est 170 fois plus puissante que celle qui a ravagé la ville japonaise en 1945. Alors, en 68, Europe numéro 1 interroge un fabricant d'abris anti-atomiques. Est-ce que ces nouveaux essais français font repartir les affaires ?
Non, les Français n'en achètent pas. Ils ne croient pas à la protection par abri, parce qu'ils ne croient pas à la guerre atomique. Ils pensent que la guerre atomique n'aura pas lieu, qu'elle n'est pas possible, et ils ont l'impression que si elle avait lieu, personne ne s'en tirerait, ce qui est faux. La protection contre les radiations est une protection, et contre l'effet thermique est une protection relativement bon marché, si vous voulez, pour un appartement de 4 pièces qui ferait une 14 millions par exemple, ce ferait une protection pour 140 000 francs. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de politique de fait dans ce sens-là parce que les gens n'y croient pas.
Et figurez-vous que le grand regret de ce fabricant d'abris anti-atomiques est de ne pas pouvoir en installer un chez lui.
Je suis moi-même dans un immeuble. Je ne suis pas propriétaire de cet appartement. Je voudrais bien avoir un abri, mais je ne peux pas en avoir parce que je suis le seul à y croire.
Mais vous en avez déjà vendu quand même.
Oui, quelques-uns. Nous avons surtout fait des aménagements dans des immeubles.
Mais vous avez des gens qui viennent vous voir quand même et qui vous disent, voilà, je voudrais bien avoir possédé un abri. Comment dois-je m'y prendre?
Ouf, on rencontre des ingénieurs, on rencontre des professeurs, des industriels, de simples ouvriers. Tout le monde me pose des questions. Ce qui arrêtait les gens, c'est le prix.
Combien avez-vous de clients chaque année, par exemple?
Ouf, c'est pas très nombreux. C'est vraiment très faible.
1968, on de la traconte sur Europe 1.
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, oh, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon, je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà.
C'était Comme un garçon, titre incontournable de Sylvie Vartan, qui cartonne en 1968.
1968, on de la traconte sur Europe 1.
Au mois d'avril 1968, les Shadocks débarquent à la télévision française.
Tandis que pendant ce temps-là, les Shadocks, eux, pompaient. Ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir. Et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ce qui revenait exactement au même, car la cosmopompe avait été spécialement étudiée.
Cette série d'animation dure seulement 2 minutes. Et elle met en scène les Shadocks, dont des créatures étranges ressemblant à des oiseaux qui peuplent une planète non moins étrange.
Les Shadocks, disait-il, étaient complètement idiots. Ça n'avait pas de sens et par conséquent, ça ne présentait aucun intérêt culturel ou éducatif. Un Shadock vu de près, en effet, est quelque chose de complètement idiot.
En vérité, cette série est absurde. Mais elle cartonne. Et elle fait les beaux jours de son créateur, Pierre Rouxel, ainsi que celle de sa voix off, le comédien Claude Pieplus.
Il y en a même qui ont écrit pour me demander si j'étais pas un débile mental pour penser à des choses pareilles. De temps en temps, il faut raconter des absurdités. Hein. Il faut bien qu'il y ait des gens qui les inventent, ces absurdités, pour que les autres puissent en rire. Celui qui les invente, c'est moi. Avec Claude Pieplus, eh bien, on sait plus.
Souvent,
on dit, tiens, là, la voix des Shadok, là. J'ai rien dit. Hein. Alors, je pense que ça doit pas être très fréquent de reconnaître une voix qui passe avec des pieds.
Faut pas se laisser prendre par le truc. Sans ça, on devient Shadok soi-même.
Mais pour une partie des téléspectateurs de l'ORTF, l'absurdité des Shadok est beaucoup trop avant-gardiste. Et du coup, la chaîne reçoit d'innombrables lettres pour arrêter le programme. En réponse, les Shadow créent une émission absurde où le comédien Jean-Yann lit ce courrier très abondant.
Voyez-vous, il y a quelque temps, le service de la recherche vous a présenté une émission. Et cette émission, c'était les Shadow. Et immédiatement, la France a été divisée en deux. Ça a été une nouvelle affaire Dreyfus, les gens envoyaient des lettres, ils disaient les Shadow, c'est une émission immonde, le dessin n'est pas beau, les auteurs sont des analphabètes, la moitié évidemment de ces lettres sont des lettres pour, l'autre moitié sont des lettres contre. Enfin, toujours est-il que nous avons été inondés de courriers. Nous sommes ici devant la maison de la radio et vous voyez que tous ces locaux immenses qui sont derrière sont remplis de cartes postales qui protestent contre les Shadow. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une émission sur le courrier des Shadow que nous vous présenterons tous les soirs.
1968 marque aussi le grand retour à la télé de Jacques Martin. Révélé il y a 4 ans, il revient pour présenter une émission de variété, Midi Magazine.
Bonjour, Midi Magazine, nous allons passer une heure ensemble. C'est un magazine, donc je vous donne très rapidement le sommaire. Nous sommes le lundi 16 septembre. Pour beaucoup, ça ne dit pas grand-chose, mais pour les enfants, c'est important, c'est la rentrée des classes. Donc nous allons axer, si vous voulez, ce Midi Magazine sur la rentrée, non seulement la rentrée des classes, mais encore la rentrée parisienne dans le monde du spectacle, des lettres et des arts, comme on dit.
Enfin, en 1968, Suzanne Gabriello hérite d'une émission pour enfants qui s'appelle « Ohé, jeudi ». Et c'est grâce à elle que le jeudi après-midi, jour sans école, les petits Français découvrent un kangourou nommé Skippy.
Regardez tous avec nous, Skippy, Skippy, notre ami le kangourou.
Et puis toujours dans Ohé jeudi, les gamins de 68, sauf moi, deviennent fous d'épinards grâce à Popeye. En 1968, Popeye incite les enfants à manger du verre. Au même moment, Jacques Dutronc s'empare d'une autre injonction, bien connue des gamins. Fais pas ci, fais pas ça.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampan tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pampan tu. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, à tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, 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 là.
C'était « Fais pas ci, fais pas ça » par Jacques Dutronc, succès du jeune chanteur de 25 ans sur son deuxième album sorti en 1968. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné, Guillaume Maury, Julien Pichenet et Guillaume Vasseau pour la réalisation. La suite de notre visite privée de l'année 1968 dans le quatrième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.